parole est à vous.
Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été très attentif, mais du coup, il y a une question fond qui me taraude. Si on enlève toutes les questions culturelles, de tradition et autres, finalement, qu'est-ce qui est dans la foi profonde différencie la foi d'un chrétien catholique de la foi d'un chrétien orthodoxe? J'ai pas trouvé de différence en fait. Il y a juste un moment où vous avez évoqué le credo, où j'ai pas trop compris, mis à part la sémantique, où il y avait un vrai sujet. Mais finalement, qu'est-ce qui dans la foi profondément différencie les deux?
Alors, je dirais, si vous voulez, que c'est un peu mon exposé qui est responsable de cette question qui vous taraude, parce que, si vous voulez, c'est une sorte de principe pédagogique de ma part. Je ne veux pas faire de présentation sur le modèle des différences, entre guillemets, parce que je considère que ce serait antinaturel, parce que l'orthodoxie ne se définit pas contre ou par rapport à l'Église catholique. Donc je ne commence pas en disant « voici les différences de l'orthodoxie », sinon c'est tout pareil, et avec un catalogue de différences. J'ai essayé de montrer le plus honnêtement possible comment se déclinait, si vous voulez, la foi du chrétien orthodoxe. C'est-à-dire essentiellement deux mystères, le mystère du Christ et le mystère trinitaire, liés évidemment bien l'un à l'autre et à travers la vie ecclésiale. Maintenant, pour répondre honnêtement à votre question, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, mais s'il y a des différences, sont-elles séparatrices? Pas forcément le cas. Je suis bien d'accord avec vous. Malgré tout, je pense qu'il y a quelques différences séparatrices. Dans la vision du mystère trinitaire, le fait que, même si évidemment ce n'est pas le cas de tous les fidèles catholiques, mais en tout cas au niveau du magistère de l'Église romaine, officiellement, le filioque n'a pas été abrogé. Donc pour parler plus précisément, le fait de dire que la personne de l'Esprit est issue à la fois du Père et du Fils. Alors que il est bien dit dans les conciles, d'abord dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean, il est dit que l'Esprit procède du Père, et il n'a jamais été précisé dans les credos issus des conciles écuméniques que l'Esprit Saint trouvait sa source aussi dans le Fils. C'est quelque chose qu'on peut très bien retracer, si vous voulez, historiquement, qui vient de la théologie de saint Augustin, qui ensuite s'est imposé dans l'Église d'Espagne à partir du 7e siècle, qui s'est étendu ensuite à l'Empire carolingien, parce que c'était la volonté de Charlemagne de modifier le credo, qui a cherché à l'imposer à l'Église de Rome pendant deux siècles, lui et ses successeurs, qui n'y a pas réussi, mais qui est arrivé quand même, donc à partir de 1014. Donc, si vous voulez, entre le 9e et le 11e siècle, il y a une véritable tension au sein de l'Église occidentale entre ceux qui veulent le filioque et ceux qui le refusent. Et ceux qui le refusent, ce sont les papes. Ils refusent d'insérer, si vous voulez, le filioque dans le credo. Et finalement, à partir de 1014, au moment où la papauté est encore affaiblie, eh bien, l'Empire carolingien finit par l'imposer. Qu'est-ce que ça change ? Ben, ça change que un credo, c'est un texte fondamental sur lequel se retrouve l'ensemble des chrétiens du monde entier. Ce credo a été modifié sans réunir un concile écuménique. Autrement dit, pour citer un grand auteur russe du 19e siècle, ce fut une sorte de péché contre les frères d'Orient. Car ce credo qui était commun a été en quelque sorte mis à mal. Donc si vous voulez, il y a un double problème. Il y a un problème d'ordre théologique, c'est-à-dire sur le mystère trinitaire, Et puis il y a un problème d'ordre ecclésial, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut modifier un texte symbolique qui rassemble tous les chrétiens sans l'aval d'églises traditionnelles qui sont celles de l'Orient. Donc ça, je dirais, c'est le gros problème. Et donc j'en viens au deuxième point, à part la théologie trinitaire, le point diviseur entre guillemets, c'est la vision du rôle de l'évêque de Rome dans la communion de l'Église. Vous savez que vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, qui est un catéchisme officiel, et vous voyez que pour avoir, vous pouvez lire que pour recevoir la plénitude du salut, vous devez être en communion avec le successeur de Pierre, évêque de Rome. Ce type d'affirmation, évidemment, est incompréhensible pour un chrétien d'Orient. Je dis même, vous voyez, un chrétien d'Orient, je ne dis même pas un orthodoxe, je dis même pour un oriental rattaché à Rome. J'ai souvent posé la question à des uniates, comme on les appelle, c'est-à-dire des chrétiens d'Orient qui ont le rite byzantin rattaché à Rome. Ils ne comprennent pas en vérité Vatican I, le dogme de Vatican I. L'idée que le pape a naturellement juridiction sur tous les fidèles et tous les clercs de par le monde. Cela est incompréhensible dans une vision orthodoxe. Parce que chaque primauté s'accompagne toujours, s'inscrit toujours dans une synodalité. Il n'existe pas un individu seul dans une église qui prend des décisions pour toute l'église. Ça n'existe pas. Même le patriarche œcuménique, celui de Constantinople, qui est, on peut dire, le plus haut gradé, entre guillemets, il est toujours dans un synode. Et il doit se soumettre formellement à ce synode. C'est-à-dire ce synode qui est formé de pères, d'évêques, comme lui. Il est primus inter pares, vous voyez. Donc ce deuxième aspect, c'est-à-dire la dimension ecclésiologique, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui est encore séparateur. Maintenant, je sais que l'Église catholique est, comme les autres églises d'ailleurs, en pleine évolution. Et donc on ne peut pas dire que tous les fidèles catholiques croient dur comme fer à Vatican I, etc. Donc l'Église catholique évolue, comme l'Église orthodoxe. Et donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 20 ans ou dans 50 ans. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est encore, c'est pas un problème.
J'ai une question, oui. Pas du tout théologique en fait. Vous avez montré le poids des origines ou des nations dans l'Église orthodoxe. J'ai bien compris le vœu pieux que vous faites d'un rassemblement œcuménique autour d'une Église. Comment vous voyez dans un contexte politique et géopolitique, où justement le poids de ces nations et de ces origines devient de plus en plus fort. Et comment vous voyez le rôle de l'Église la plus puissante en Christ, et celui de la Russie, dont on a l'impression qu'elle revient à ses anciens amours avec l'autre sœur.
Il y a plusieurs questions dans votre question. C'est intéressant, important. D'abord l'émergence, le retour de la Russie, ça c'est certainement un point très important. Ce que j'espère, vous voyez, et je ne suis pas quand même trop idéaliste là-dessus, c'est que le monde postmoderne dans lequel nous entrons fait que de toute façon il y a une sécularisation qui va affecter toutes les chrétientés qui autrefois étaient traditionnelles. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de christianisme sociologique.
Et vous espérez ça ?
Je l'espère, oui, parce qu'il y a un paradoxe dans cela. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fidèle est de moins en moins attaché à une église par les devoirs d'ordre familial, social, culturel, national, et de plus en plus par conviction personnelle. Ce qui crée nécessairement, et à mon avis c'est tout à fait dans le sens profondément théologique de la personne. C'est-à-dire que la personne est un être libre, foncièrement libre. Et donc elle doit se dégager de tout ce qui entrave sa liberté intérieure. On n'est pas chrétien parce qu'on est né chrétien. On est chrétien parce que on a accepté à un certain âge de recevoir, d'accueillir ce que vous avez reçu, dans le cas où il y a une chaîne familiale, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc j'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que pour répondre à votre question un peu géopolitique, c'est que les églises, petit à petit, prennent leur distance par rapport aux nations, et en particulier par rapport aux États. Il fut un temps où, effectivement, c'était à la mode en Russie de se faire baptiser, dans les années 90. On se faisait baptiser beaucoup, on ne savait plus où donner de la tête, on baptisait. C'était la nouvelle idéologie, comme avant ça avait été le communisme. Évidemment, c'est assez douteux, cette orthodoxie. Nous sommes d'accord. Mais on peut espérer que les choses évoluent autrement. Maintenant, c'est un regard évidemment un peu rapide. Nous sommes d'accord. Mais ce que nous espérons, c'est retrouver cette tradition orthodoxe transnationale qui existait avant le 19e siècle et qui existait en particulier dans l'Empire ottoman, où vous aviez des chrétiens de toutes origines dont le seul point commun, c'était la foi chrétienne. Ce n'était pas spécialement de se dire serbe, grec, ukrainien, roumain, etc. Pour ceux qui étaient dans les marges de l'Empire ottoman. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais...
Je trouve que c'est un peu contradictoire, parce que d'un côté, vous dites qu'il faut revenir à ce qui se passait avant avec une église transnationale qui a une base sociologique, en fait, c'est ça qui les unit. Et de l'autre côté, enfin, il me semble, ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce qui les unit, c'est la foi et c'est certaines idées sur la société et certaines idées sur la famille, etc. D'un autre côté, vous nous dites que vous espérez que la sécularisation va éviter cette politisation, finalement, ou cette instrumentalisation par le politique du religieux, comme ça peut se passer quand on a l'impression que ça se passe, en Russie, mais il y a certainement une voie moyenne, c'est-à-dire que... Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est une contradiction. Après, je
vous pose
la question, mais...
Non, si vous voulez, c'est simplement, je remarque qu'à l'époque de l'Empire ottoman ou à l'époque de l'Empire byzantin, évidemment, il n'y avait pas la conscience personnelle moderne, on est bien d'accord. Il y avait un schéma culturel, si vous voulez. Mais il n'y avait pas, en tout cas par rapport à la question des nationalités, il n'y avait pas une conscience nationale comme à l'époque moderne. C'est ça que je veux dire, uniquement sous cet aspect-là. Mais nous sommes bien d'accord que la conscience personnelle, c'est quelque chose de moderne. C'est quelque chose qui n'est pas le retour à un état antérieur. Et là, de ce point de vue, je pense que c'est souhaitable.
Certaines personnes qui sont intervenues avant vous, indiquent que justement... cette conscience personnelle, cet individualisme, ce choix individuel de certaines religions, que ce soit l'islam ou certaines autres religions, mais on parle surtout de l'islam, est à l'origine des dérives actuelles. Parce qu'il est basé sur rien, sauf sur un choix individuel et égoïste, et que dès lors, il peut prendre des formes qui sont outrancières.
Je ne sais pas ce que veut dire ce raisonnement, excusez-moi, mais je ne vois pas en quoi il y a un choix égoïste. C'est une option de la conscience profonde.
C'est un choix individuel détaché, ça peut être positif, parce que c'est une démarche individuelle et réfléchie, mais un choix individuel, ça peut être aussi une manière de trouver un chemin qui n'est pas forcément celui de
la vraie conscience. Ben, c'est pas forcément celui
ça peut être aussi une dérive, quoi. Une dérive moderne, absolument, d'un choix égoïste et consumériste, en fait.
C'est possible, mais je crois fondamentalement, ayant bien réfléchi, si vous voulez, au fondement de la foi chrétienne, je crois fondamentalement que la foi chrétienne est une foi qui repose sur la liberté. Qu'il n'y a pas d'adhésion au christianisme sans une liberté profonde. Et donc, ça me paraît incohérent de vouloir imposer le christianisme avec le fer et le feu. Donc d'une manière ou d'une autre, en image, ou malheureusement ça a existé aussi en réalité, Ça me paraît absurde. Ça n'a pas de sens. Donc, par conséquent, je crois que c'est le mieux pour l'avenir de l'orthodoxie, mais aujourd'hui, on en est loin encore. Il existe plusieurs sociétés orthodoxes traditionnelles qui, souvent par réaction à la modernité, en particulier la modernité occidentale, glissent dans le fondamentalisme. Pas forcément dans le nationalisme, mais je dirais plutôt dans le fondamentalisme et le provincialisme. C'est-à-dire qui s'isole, qui érige des murs. C'est facile.
Exemple.
Je ne veux pas donner d'exemples trop précis, mais dans les Balkans notamment, dans certains coins, en Grèce, en Roumanie, il y a des petits îlots comme ça qui veulent recréer une petite Byzance, entre guillemets. Mais évidemment, ça n'a aucun sens.
On a bien compris le rôle historique de l'Institut Saint-Serge. Il y a aussi l'apparition de la cathédrale sur le pied de Rangli, la nouvelle cathédrale, le nouveau séminaire orthodoxe russe créé et puis des sous-sénats. Est-ce que c'est un renouveau de l'orthodoxie russe ou l'émergence de différentes sensibilités?
Moi, je dirais pas que c'est un renouveau en tant que tel, puisque c'est bien qu'il ait vu le jour, ce séminaire. Parce que il correspond, disons, à un désir d'ouverture de la part du patriarcat de Moscou vers l'Occident pour justement réagir à ce fondamentalisme orthodoxe qui existe par ignorance de l'Occident et par crainte, par peur de l'Occident. Donc c'est une volonté du patriarcat de Moscou de se former des cadres et ensuite de les renvoyer en Russie. Et donc c'est un bon projet, à mon sens. Ce qu'on aurait pu souhaiter, c'est qu'il y ait davantage de collaboration avec l'Institut Saint-Serge, mais là, je dirais que c'est l'histoire contrastée, difficile, parfois douloureuse de la diaspora russe en France, qui fait que dans les années 90, il y a eu une tentative de la part du patriarcat de Moscou de récupérer tous les biens de la diaspora russe, y compris de l'Institut Saint-Serge, de la cathédrale de la rue Larue. Et le patriarche de l'époque a fait un marché, et je vous propose de faire une grande église de la diaspora russe, et vous aurez votre liberté, etc. Les fidèles de ce diocèse rattaché à Constantinople depuis 1930, parce qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance à l'Union soviétique, ont dit non. On dit que, justement, ils ne voulaient pas revenir en arrière. Il y avait un pas qui avait été fait, une sorte de libération, entre guillemets, de la tutelle de l'Église mère, et qu'il n'était plus question maintenant de se remettre à nouveau sous la coupe du patriarcat de Moscou. Et donc, ça a créé une tension entre ce diocèse, auquel appartient Saint-Serge, et le patriarcat de Moscou. Ce qui explique pourquoi il y a eu cette nouvelle Église qui a été...
Mais comment vous envisagez l'unité?
Mais l'unité, elle existe réellement. Il y a des tensions, c'est ce que je voulais dire. Moi, je connais très bien le père Alexandre Siniakov, on collabore ensemble. On va faire d'ailleurs ici même, sur le Concile de Moscou 1917, vous aurez noté que c'était il y a 100 ans, on va faire un grand colloque de 3 jours, du 8 au 10 décembre, sur ce concile, et le père Alexandre Siniakov parlera. Donc, nous travaillons ensemble, nous collaborons, mais simplement, ces tensions, elles datent d'il y a une quinzaine d'années, et on travaille à les dépasser. Je ne peux pas vous dire autrement, mais il y a des dimensions politiques, si vous voulez, qui sont plus fortes que simplement la spiritualité et la théologie.
Vous avez commencé à y répondre un peu dans la dernière question. J'avais une question. Vous avez évoqué le rapport du patriarche, enfin des patriarches par rapport à la dimension synodale, donc le fait qu'il est un parmi d'autres. Oui. Quelle est la relation, cette fois-ci, du prêtre par rapport à ses fidèles? Est-ce qu'on est dans cette même logique? Est-ce que la démarche synodale, donc le prêtre, qui serait un parmi les fidèles, qui est juste le premier, ou est-ce qu'il y a bien une dimension de rupture entre le prêtre et l'ensemble des fidèles?
Alors, il n'y a pas une rupture, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même rapport entre un patriarche et les évêques de son synode. Parce que les évêques, le patriarche est un évêque parmi d'autres, tandis que le prêtre a reçu une ordination. Donc ça veut dire qu'il a une fonction quand même très importante, centrale, dans la vie de la paroisse. Mais néanmoins, tous les fidèles sont des baptisés. Et ils ont tous le sacerdoce royal et prophétique en tant que baptisés. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas du même ordre, bien entendu, qu'un synode, mais l'orthodoxie insiste beaucoup là-dessus. La conciliarité se vit à tous les niveaux de la vie de l'Église. Et elle commence dans la paroisse.
Et donc, je pousse mon raisonnement. Est-ce que, sur cette logique d'ouverture-là, vous avez évoqué la place centrale de l'Eucharistie. L'Eucharistie est nécessairement liée à un prêtre. Elle ne peut pas se faire sans prêtre.
Elle ne peut pas se faire sans prêtre, mais inversement, et justement ça prolonge votre question, le prêtre ne peut pas célébrer sans fidèle.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable qu'il n'y a aucune expression liturgique avec un « je » dans la bouche du prêtre. C'est toujours « nous ». Ou alors, c'est au passif. Et c'est la Trinité qui est invoquée. Par exemple, c'est pas « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est « le serviteur de Dieu, un tel, est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Autrement dit, la personne est baptisée dans la Trinité. Donc ça, c'est pour souligner le fait que le prêtre est au service de l'Église et qu'il est intégré dans la communion et qu'il n'est pas quelqu'un qui est député, vous voyez, ou qui est envoyé au nom de, comme dans une vision juridique latine. Donc ce n'est pas la même vision, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la même vision qu'il y a opposition. Hein, moi j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un génie propre à l'Orient qui n'est pas le même que le génie latin. Je ne dis pas qu'il y a opposition pour ça, je dis simplement que ce ne sont pas les mêmes sensibilités.
Et du coup, dernière question, limite hérétique. Une femme prêtre dans l'Église orthodoxe, c'est envisageable ?
Eh bien, paradoxalement, je ne peux pas répondre à votre question. Aujourd'hui, ça ne se fait pas.
Mais ça ne se fait pas parce que ça a été refusé ou ça ne se fait pas parce que ça n'a même pas été envisagé ?
Ça n'a même pas été envisagé concrètement, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque synode qui se soit réuni pour statuer sur la question. Par contre, il y a des débats théologiques qui agitent surtout, comme vous l'aurez compris, bien entendu, la diaspora orthodoxe, c'est-à-dire l'Occident orthodoxe, et pas l'Orient, où les questions sont à peine évoquées. On parle des ministères des femmes dans l'Église, on parle du diaconat féminin, c'est-à-dire de la revivissance des diaconesses, la même question d'ailleurs agite l'Église catholique, sauf que les diaconesses dans l'Orient orthodoxe, ça a existé très très longtemps, pendant des siècles, mais on ne parle pas encore, je dirais, des femmes prêtres. Mais il y a des femmes théologiennes orthodoxes, il y en avait une ici, qui a donné des cours ici à l'Institut Saint-Serge, Elisabeth Bersigel, justement, qui défendait l'accès à la prêtrise pour les femmes. Et il y avait un évêque qui lui donnait son accord. Il s'appelait le métropolite Antoine de Souroges, et il était en Angleterre. C'est un très grand spirituel orthodoxe qui est mort il y a une dizaine d'années. C'était le seul évêque orthodoxe connu qui donnait son accord de principe sur cette question.
Mais dans la mesure où chaque entité élit vote pour son...
Oui.
Qu'est-ce qui empêcherait ?
Alors, ce qui empêcherait, c'est d'abord l'argument de tradition, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais fait. Et or, l'argument de tradition est très fort dans l'Orient chrétien en général. L'argument de tradition, ce n'est pas quelque chose de négligeable, hein, comme par exemple dans le monde protestant. Donc déjà, ça c'est important. Et puis, il y a des arguments d'ordre symbolique qui disent que celui qui représente le Christ à l'Eucharistie, le prêtre, doit représenter le Christ. Comme le Christ était le sexe masculin, ça doit être quelqu'un de sexe masculin. C'est l'argument qui est invoqué. Moi, personnellement, moi, à titre personnel, je trouve que cet argument ne vaut pas grand-chose. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait prendre un homme de 33 ans, qui a une jolie barbe, etc.
Comme un juif, excusez-moi,
le premier siècle, donc je veux dire, cet argument ne vaut pas grand-chose à mon sens. C'est un argument plutôt culturel. C'est pour ça que je vous ai répondu que c'est envisageable. Dans le
c'est
principe,
envisagé.
Bah, c'est envisagé par certains, mais pour l'instant, c'est de la fiction. Parce que les esprits ne sont pas prêts.
Mais je veux dire, quand on regarde dans d'autres
questions,
la question d'un ministère exercé par une femme fait l'objet de débats, pour le coup, beaucoup plus aboutis. En tout cas, ça n'est pas juste dans une réflexion de loin. Je parle en France. Voilà, mais là, j'ai l'impression que c'est un truc qui est bien dans un petit coin et c'est de la pure théorie parce qu'on se fait plaisir, mais surtout, n'envisageons même pas que ça puisse avoir lieu.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça, c'est que je pense que les esprits ne sont pas prêts, fondamentalement. Mais les théologiens se posent la question. Il y a un grand théologien comme Monseigneur Georges Codre, un théologien libanais, qui est très âgé maintenant, et qui envisageait aussi la question. Et lui, il voyait plutôt des obstacles d'ordre culturel. Parce qu'évidemment, au Liban, on n'imagine pas une femme prêtre dans le contexte du Proche-Orient. Bon, après, les esprits évolueront, si vous voulez. Et c'est plus culturel qu'autre chose.
Il y a quand même, vous l'avez dit, ce génie oriental, les orthodoxes. On a un séminaire dont le thème principal est la laïcité. Comment vous voyez l'articulation de l'Église orthodoxe, que c'est la laïcité française, on est en France, sachant que le génie oriental n'est pas forcément propice à cette laïcité.
Ça me semble complètement indépendant. Le génie oriental serait tout à fait propice à la laïcité, à mon sens. Les orthodoxes russes qui sont arrivés ici, ils se sont épanouis comme jamais dans l'histoire.
Grâce à la laïcité,
exactement. Je le dis souvent, c'est la République française qui a accueilli l'émigration russe, c'est pas l'Église catholique. Si, d'ailleurs, les protestants, j'allais dire ni les protestants, mais c'est faux. Les protestants ont beaucoup aidé les orthodoxes. Notamment, ils les ont aidés, par exemple, pour acquérir ce site. L'Église catholique a eu de bonnes relations, mais seulement par la suite, pas tout à fait au début. Donc, je veux dire que l'Église orthodoxe, grâce à la laïcité française, est sortie de l'ère constantinienne, entre guillemets, grâce à la diaspora. Fondamentalement, le christianisme est un mouvement spirituel qui appelle au royaume de Dieu, donc qui n'est pas contre la laïcité, à condition que ce soit une laïcité... Alors j'allais dire ouverte, certains vont dire, mais de toute façon la laïcité n'a pas besoin de qualificatif. Mais il n'empêche que, il vaut mieux préciser les choses. Ce n'est pas la religion de la République, la laïcité.
Oui, tout à fait.
Enfin, de haut point de vue.
Vous avez parlé du dialogue interne, entre les différentes tensions, si
je veux dire. Oui.
L'orthodoxie, le dialogue avec l'Église catholique, enfin.
Oui.
Vous n'avez pas parlé du dialogue avec les autres religions, les grands monothéistes?
Oui, parce que je ne peux pas parler de tout.
Non, je sais, vous avez une heure, etc. Et donc, comment ça s'articule?
Alors, il existe un dialogue fort ancien, je dirais, depuis les années 1930, avec le judaïsme et l'islam. De par sa position, je dirais, au Proche-Orient, le christianisme orthodoxe est en dialogue avec l'islam. Et la coopération, je dirais, était bonne dans la vie quotidienne au sein de l'Empire ottoman. Évidemment, comment est-ce que progresse le dialogue théologique, c'est une question extrêmement difficile. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment qu'il progresse beaucoup, sur le plan strictement théologique. Mais par contre, sur le plan de la morale sociale, j'ai l'impression que...
Qu'est-ce que vous appelez la morale sociale ?
Ce que j'appelle la morale sociale, c'est le vivre ensemble, dans la société d'un pays. J'ai l'impression que ce dialogue avance bien.
D'accord.
Il y a des rencontres régulières au niveau international et ce dialogue est organisé à la fois par le patriarcat œcuménique, le métropolite Emmanuel pourra vous en parler puisqu'il est l'un des responsables au niveau mondial, et puis il est organisé aussi par le patriarcat de Moscou, puisque, comme vous savez, l'islam est aussi très présent dans la Fédération de Russie.
Où en est l'église de Constantinople dans le Nouvel Empire d'Erdogan?
Dans le Nouvel Empire de...
d'Erdogan. Alors, elle a toujours sa place, elle est toujours en cohabitation, il y a des gens qui...
Alors, il n'y a pas de tension plus importante qu'elle pouvait l'être à l'époque de la dictature de l'armée turque, où là c'était parfois plus difficile. Honnêtement, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas pire sous Erdogan. C'est plus ancien, ça ne date pas d'Erdogan. Non, je dirais que justement, le paradoxe, c'est que la République laïque turque a été beaucoup plus antichrétienne que le parti d'Erdogan. Hein, je ne sais pas si c'est un paradoxe d'ailleurs.
Non, l'Empire Ottoman, c'est peut-être logique. Les amis étaient plus tolérants.
Ils
n'ont
pas.
L'Empire, s'il te
plaît. En tout cas, le kémalisme était terrible lors de la fermeture de la seule école de théologie qui existait, l'école de Kalki. Alors que les écoles islamiques, évidemment, sont toujours ouvertes, alors que soi-disant, on est dans un pays laïque. Donc ça ne tient pas debout du tout.
Une question. Il y a eu le concile pan-orthodoxe qui a essayé de rassembler.
Oui.
Il y a eu ces quatre absences. Maintenant, est-ce qu'ils essayent de...
On essaye de raccommoder. Oui, on essaye de raccommoder. C'est-à-dire que les quatre églises absentes, notamment le patriarcat de Moscou, sont censées travailler sur les textes qui ont rassemblé les autres églises, les 10 églises au concile de Crète.
Donc, aucun texte n'a été voté et défini comme normatif, mais par contre,
ces textes sont considérés comme des textes de référence pour les 10 églises, mais ils ne sont pas imposés aux 4 autres églises.
Okay.
Et il y a une attitude de bienveillance vis-à-vis des absents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension plus grande pour leur absence.
Et donc, à l'issue, par exemple, toutes les églises auront le calendrier grégorien
ou... Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que sur la question du calendrier, on n'a pas progressé.
C'est des tensions à plus ou moins.
Alors, à propos de calendrier, ça...